fondateur du Pan-African Scientific Research Council et à Lomé, lui Magloire Kumayo, journaliste, analyste politique, normalement basé à Paris, mais présentement à Lomé. Alors Arsène, l'OIM, je dois signaler aussi que vous travaillez spécialement, Arsène, sur cette question de la fuite des cerveaux. L'OIM qui estime à plus de 20 000 le nombre de personnel hautement qualifié qui quitte chaque année pour aller vers des pays plus riches. Cela ne veut-il pas plutôt dire que le continent regorge de talents dans tous les domaines?
Bien sûr, merci pour cette invitation que vous faites sur un sujet aussi brûlant qu'important dans notre continent, celui de la fuite des cerveaux. L'Afrique, en effet, regorge beaucoup de potentialités, que ce soit dans le domaine sanitaire, dans le domaine de l'économie, dans le domaine justement de l'innovation. On en voit également un certain nombre de start-up qui montent et qui montrent aussi que l'Afrique est une terre d'avenir. Alors, à côté de ce phénomène-là, il y a donc un paradoxe. C'est celui de voir aussi que nous sommes le continent où il y a le plus de départs massifs de ceux qui devraient effectivement participer au développement du continent qui s'en vont. Mais la bonne question à se poser, c'est finalement pourquoi vont-ils? Pourquoi est-ce que l'attrait vers l'étranger devient inscrit dans un processus mental de l'intellectuel africain? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain pour que l'Afrique voit chaque année se dépeupler des milliers d'intellectuels, des milliers de scientifiques, et on l'a vu également avec ce reportage sur le Nigeria. On peut se poser cette question, mais en répondant, il y a d'abord à remettre un peu les choses dans leur contexte. On sait très bien que les conditions de travail, de manière générale, se dégradent dans un certain nombre de pays. Il y a aussi l'attractivité de nos économies qui ne font plus rêver un certain nombre d'intellectuels. Il y a la question des conflits armés qui chassent les intellectuels. Il y a aussi simplement la question du bien-être social de nos populations qui fait que les sachants, les savants, ceux qui peuvent encore investir dans ce qu'on appelle l'économie du savoir, s'en vont ailleurs.
D'accord. Alors, Léonard Wanchekon, dans le monde académique ou de la recherche, est-ce forcément une mauvaise chose de voir les Africains partir ailleurs où ils peuvent tester leurs limites?
Non, en fait, oui et non. Oui, parce que si vous êtes parmi les meilleurs au monde, il faut travailler avec les meilleurs au monde, donc qui sont les grandes universités. Donc de la même façon que, par exemple, les plus grands joueurs africains jouent à Real Madrid ou à Chelsea, etc., il n'y a pas de problème. En fait, c'est une très bonne chose donc d'avoir les meilleurs Africains travailler dans les grandes universités. Mais non, parce que c'est une question de degré. C'est-à-dire, si par exemple, c'est vraiment les 0,1%, donc qui, à cause de leurs compétences, vont travailler à l'étranger, là, c'est une très bonne chose. Mais lorsque le départ est massif, par exemple, il y a des médecins qui quittent, des professeurs qui quittent, non pas pour aller exercer comme professeur dans les pays étrangers, mais pour être chauffeur de taxi, par exemple, ou des petits emplois parce qu'ils veulent gagner leur vie, là, c'est une perte. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment important de voir les choses de façon nuancée, créer les bonnes conditions pour que la plupart des gens restent. Et également, si les gens veulent tester leurs limites, comme vous l'avez dit, donc qu'ils aient, l'opportunité de le faire. Tant et aussi longtemps qu'ils restent impliqués dans leur pays, tant aussi longtemps qu'ils ne veulent pas développer les universités, les centres de recherche, les laboratoires dans leur pays d'origine.
D'accord. On pourra revenir sur cette question de l'implication de la diaspora qualifiée dans leur pays d'origine. Alors, lui, Kumayo, cet argument du patriotisme lancé à ces médecins, par exemple, est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez ou vous pensez que c'est une critique injuste?
Non, je pense qu'il ne faut pas avoir une position binaire. Il y a ceux qui sont patriotes, ceux qui ne le sont pas. Ça rappelle de mauvais moments, ceux du communisme, où on était soit avec les gens, soit contre eux. Et quand on était contre les gens, on était combattu. Non, je pense qu'il faut être nuancé pour des tas de raisons. La première étant que l'immigration n'est pas toujours un acte volontaire. Ça ne procède pas d'une volonté préécrite de partir de chez soi, c'est souvent le résultat d'un échec collectif. Échec d'abord par rapport aux conditions dans lesquelles les gens travaillent, qu'on échoue par rapport aux moyens dont les employeurs sur place, qu'il s'agisse de l'État ou du secteur privé, peuvent payer et offrir des conditions de travail décentes à ces médecins, pour ne parler que des médecins, et puis aussi échec par rapport aux moyens qui sont mis en place pour que le transfert de technologies que dans les années 70, tout le monde appelait de ses voeux des pays industrialisés vers les pays les moins industrialisés se réalise. Donc si on n'a pas ces conditions-là et qu'en plus on est dans un environnement où on veut être compétitif, la plupart du temps on part vers ce qu'il y a de mieux, vers ce qui nous permet, même si c'est pas toujours idéal, parce que n'oublions pas que dans le cas de la France, par exemple, les conditions d'accueil et d'exercice des médecins étrangers ne sont pas toujours les meilleures. Donc, les médecins qui partent d'Afrique vers l'Europe ou vers l'Amérique du Nord n'y vont pas toujours avec la certitude qu'ils auront des moyens meilleurs que ceux dans des conditions meilleures que celles dans lesquelles ils exerçaient, mais au moins ils ont cet espoir qu'avec le temps, qu'avec un peu plus de combativité, ils arriveront à acquérir un minimum qui les met au niveau D'accord. des meilleurs. Mmh. Donc, de mon point de vue, on ne devrait pas être binaire là-dessus, surtout qu'après, ces médecins continuent de soutenir leurs confrères qui sont sur le continent. En faisant des missions humanitaires, il y a des associations de médecins africains en France qui en font beaucoup de missions humanitaires sur le continent tous les ans. Et donc, on ne peut pas les accuser d'avoir déserté le terrain médical chez eux.
Tout à fait. Alors, Arsène, et que répondez-vous, par exemple, à ceux qui disent que ces médecins, ces ingénieurs ou ces techniciens ont été formés en partie grâce aux contribuables de leurs pays respectifs?
Je voudrais reprendre l'argument du confrère Luc Emayou sur le fait qu'effectivement, beaucoup parmi eux, par rapport à l'investissement qu'ils ont reçu de leur pays, ont ce qu'on appelle le retour sur investissement. Et le retour sur investissement, c'est quelque chose de très très important à soulever, parce que ça permet aussi bien de voir que beaucoup d'entre eux ont gardé aussi des liens, notamment les médecins qui le font, les infirmiers également, et même certains sociologues, des économistes pour soutenir des universités, puisque certains vont. Moi, personnellement, je vais souvent chaque année pour donner des cours à l'Université de Marine-Gwadi sans être payé, mais je le fais par patriotisme. Alors, je voulais simplement soulever le fait que longtemps, les sociologues ont parlé du brin-drain, qui est un anglicisme un peu dévoyé. Mais nous partons du brin-drain, nous assistons au brin-gain. Le brin-gain, dans la mesure où les gens vont chercher des conditions beaucoup, beaucoup meilleures dans ces pays du Nord, mais tout en gardant le lien quand même avec le pays, puisque c'est parmi ceux qui aussi, à travers les transferts de fonds, ce que j'appelle les migrants devises, soutiennent le développement local, que ce soit en soutenant des petits dispensaires, que ce soit aussi en soutenant des écoles dans des villages. Et donc, cette position, moi je ne l'amène pas sur le terrain binaire, mais je voudrais ouvrir aussi le fait que le brin-grain a aussi du positif a du positif dans la mesure où ça permet de garder le lien avec nos pays, ça permet aussi d'apporter là où le transfert de technologie ne s'est pas fait, d'apporter notre savoir-faire dans les économies les plus fragiles.
Alors, Léonard, Brice donne des cours dans son pays d'origine, au Congo-Brazza. Vous avez ouvert une grande école dans votre pays d'origine, le Bénin. On a vu Luc Emayou, qui est basé normalement à Paris, mais qui en ce moment travaille à Lomé. Finalement, est-ce que c'est pas un faux débat, entre guillemets, cette fuite des cerveaux?
Je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, aujourd'hui, c'est ce que vous faites qui compte. C'est pas là où vous êtes nécessairement. Parce que vous pouvez créer des entreprises, créer des universités, contribuer au développement local dans votre pays d'origine, en y habitant un mois par année ou deux mois par année. Donc, je pense que le débat doit être beaucoup plus comment mobiliser la diaspora pour mieux contribuer au développement. Pour revenir un peu à cette question de fuite, je pense qu'il faut beaucoup plus parler de circulation des cerveaux, pas fuite des cerveaux. Voilà. Il y a ça. Il y a aussi le fait que même lorsqu'on veut monétiser, c'est-à-dire, moi j'étais en prison lorsque j'ai quitté, je suis allé pour fuir le pays, aller à l'étranger.
Soukereko, ouais.
Voilà, moi j'étais resté au Bénin. Le maximum peut-être que j'aurais pu contribuer, disons 10 francs. Alors, le fait d'avoir quitté, j'ai multiplié ces 10 francs-là par peut-être 100. Mmh. Et peut-être j'ai retourné, même si je retourne 10% de ces 100.
Mais il y a cette question cruciale, par exemple, des médecins qui peut être différente de la vôtre, par exemple. La médecine, c'est un secteur vital.
Oui, je suis d'accord. Mais bon, mais la économique aussi l'est. Mmh. Mais je pense que ce qu'il faut dire, simplement, c'est que c'est important de voir si... Parce que, bon, il peut y avoir des médecins sur place, mais leurs talents sont gâchés. Leur contribution est complètement gâchée.
D'accord.
Par la condition de travail, tout le reste. Donc,
avant d'aller en pause, on est obligé d'aller un peu plus vite. Avant d'aller en pause, Luc Mayo, les États africains doivent-ils faire plus pour retenir les professionnels de certains secteurs vitaux comme la santé?
Non, si on considère qu'on doit exercer forcément dans son pays, oui, mais nous sommes dans un contexte de mondialisation où on ne peut pas empêcher les mouvements de population. Avant l'immigration, il y avait l'exode rural qui était un phénomène qu'on peut retrouver partout, que l'on soit en Afrique ou ailleurs. Mais pour ce qui concerne l'Afrique, le problème est exacerbé par le fait que, à côté de l'immigration légale, il y a une immigration illégale sur laquelle les pays africains n'ont encore rien fait. Ils n'ont pas réfléchi et ils subissent aujourd'hui tout le débat sur l'immigration qui se fait dans les pays d'accueil en Europe et pas suffisamment dans les pays africains, y compris au sein des pays africains où le gros de l'immigration africaine se passe. Donc je pense qu'il y a une nécessité pour l'Afrique aujourd'hui de véritablement réfléchir sur ce sujet, mais sans forcément stigmatiser les personnes qui sont acteurs ou actrices du phénomène.
D'accord. Alors voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Aaron Abaldé à Dakar nous dit: un grand problème pour le continent africain, mais pour renverser la tendance, il faut que le système change, c'est-à-dire qu'on paye moins les ministres et députés et plus les universitaires, médecins, ingénieurs et instituteurs. Mandela Keïta est à Konkan en Guinée. Il nous dit que c'est une situation qui est due au mauvais traitement des personnels soignants par les États d'une part et au manque de patriotisme d'autre part. Et puis Archiduc Théodore est à N'Djamena. Il écrit: la fuite des cerveaux africains est née de la mauvaise gestion de nos dirigeants n'arrivant pas à établir un bon plan de carrière axé sur le développement professionnel dû aux salariés. Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. De Washington Forum. En Tunisie, la plupart des jeunes médecins rêvent de faire carrière hors du pays, faute de salaires conséquents pour subvenir à leurs besoins. Les pays du Golfe attirent surtout ces jeunes diplômés formés par l'État tunisien en leur offrant de meilleures conditions salariales. C'est un récit de Yacoubawe Draogo.
Abdel Waheb, médecin urgentiste sur le front contre le Covid-19 en Tunisie, n'a pas été payé depuis des mois. À 35 ans, il se prépare à partir à l'étranger en quête de meilleures conditions de travail, comme la majorité des médecins tunisiens.
J'essaye de migrer hors Tunisie. Pourquoi ? Parce que la situation générale en Tunisie n'est pas stable économiquement, socialement et politiquement. Actuellement, le pays peut payer des salaires, mais dans 6 mois, 1 an, on ne sait pas.
La proportion des jeunes diplômés s'exilant à la fin de leurs études, principalement vers la France, l'Allemagne ou les pays du Golfe, ne cesse d'augmenter. Le Conseil de l'Ordre des médecins tire la sonnette d'alarme sur le vieillissement des médecins dans le secteur public.
Si on veut comptabiliser un petit peu, bon, moi j'ai pris la direction de l'Ordre il y a 2 ans, et j'ai déjà 2018, on n'était pas loin des 60% de départ. Et fin 2020, pratiquement, on n'est pas loin des 80% des jeunes diplômés qui sont en train de partir.
La Tunisie continue de former chaque année 800 médecins dont les compétences sont reconnues à l'international. Mais les infrastructures sont dégradées, le matériel et les médicaments manquent et les effectifs sont parfois insuffisants.
Les pouvoirs publics font avec les moyens qu'ils ont. Ils n'ont pas de moyens. Le budget de la santé, c'est à peine 6% du PIB.
Une étude publiée en 2020 par un jeune doctorant en médecine souligne que l'exode de compétences touche tout type de médecins et cadres paramédicaux. À la Direction générale de la santé, les autorités relativisent.
Je vais être très franc. Que nos diplômés migrent à l'étranger, on peut le considérer que ça rentre dans une approche macroéconomique du pays d'exportation des services. Mais il faut que ça soit contrôlé pour que l'État et le peuple se retrouvent.
D'après le docteur Salah, le coût total de formation d'un médecin s'élève à plus de 46 000 euros. Selon le syndicat des médecins, les pays embauchant les médecins tunisiens profitent gratuitement d'un capital humain très qualifié.
Merci beaucoup, Yacouba. Alors, je rappelle nos invités à Rouen, Brice Arsène Mankou, sociologue, chercheur au DISOLAB, le laboratoire des dynamiques sociales de l'Université de Rouen en Normandie. Dans le New Jersey, Leonard Wantjekon, professeur d'économie à Princeton et fondateur du Pan-African Scientific Research Council, et à Lomé Louis-Magloire Kumayou, journaliste, analyste politique. Alors, Leonard Wantjekon, la diaspora africaine est l'une des plus attachées à son continent, nous dit-on. Faut-il encourager le retour de ces cadres en Afrique ou servent-ils mieux le continent en restant en Occident ou dans d'autres pays?
Une solution intermédiaire, à savoir les encourager à investir leur savoir, investir leurs ressources financières à l'étranger. Donc, et si bien que lorsque, si les gens décident de ne pas retourner, ils auront déjà contribué de quelque chose sur place. Mais s'ils décident de retourner, ils ont créé eux-mêmes les conditions d'un bon retour. En ce sens qu'ils ont des structures sur place, donc dans lesquelles ils vont fonctionner s'ils arrivent. Donc je pense que là où nous sommes, il faut vraiment travailler. Il faut être créatif, donc pour encourager les investissements de toutes les formes des gens de la diaspora. Je pense que c'est vraiment la solution.
D'accord. Brice, comment l'Afrique peut-elle mieux profiter de sa diaspora qualifiée?
Bien. Nous allons avoir ici en France le sommet France-Afrique. Et dans les contributions, je voudrais apporter une contribution très claire, très pragmatique, c'est-à-dire que piller de la même manière les ressources naturelles, c'est très bien, mais piller encore les ressources humaines dont l'Afrique pouvait avoir besoin peut paraître comme un crime. Alors quoi faire? Ce que je propose, moi, c'est une espèce de new deal ou un partenariat tout à fait nouveau entre le vieillissement des médecins ici, par exemple, et le fait qu'on fasse appel à un certain nombre de nos médecins là-bas. Et donc, il y a un partenariat de type nouveau à créer entre la France, par exemple, et un certain nombre de pays francophones. C'est-à-dire qu'au nom de la francophonie, on pourrait faire en sorte que les projets de ces médecins-là servent d'abord et avant tout les pays dans lesquels ils sont originaires.
D'accord.
Les médecins ici à Calais qui travaillent grâce aux technologies d'information et de la communication, ils travaillent sur la télémédecine. En quoi ça consiste? Un médecin ici qui aide son confrère de l'autre côté, un médecin ici qui investit sur le travail que fait son confrère de l'autre côté, au nom de la francophonie, me semble quelque chose de très concret et pragmatique.
D'accord. Alors,
à Calais, ça s'est fait. Il y a d'autres hôpitaux qui sont en train de le faire. Et c'est un consortium de médecins qui travaillent ici pour aider les confrères là-bas. Et en établissant ces liens, il y a donc un partenariat qui se crée.
D'accord.
C'est ce partenariat de type nouveau dont j'ai besoin au nom de la France.
Alors, lui, Magloire, est-ce qu'une diaspora africaine qui sert son continent, ça doit forcément passer par le retour? Et quand on sait que des fois même le retour n'est pas aussi évident dans certains pays.
Non, pas toujours. Non, je crois qu'on n'est pas obligé d'être dans son pays pour l'aider à se développer. Nous n'inventons pas la roue avec l'immigration ou la capacité pour la diaspora d'aider son pays. On l'a vu avec Israël, on le voit avec la Chine. Même sur le continent africain, vous avez un pays comme l'île Maurice qui, dans les années 70, a organisé son immigration. C'est-à-dire que les Mauriciens qui partaient en Australie, aux États-Unis, au Canada ou en France, partait parce que l'État avait signé des accords dans ce sens et que cela profitait à l'État. Ça permettait de ramener des devises à l'État et on ne peut pas dire que c'était une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Ce qui est aujourd'hui ahurissant dans la manière dont l'immigration se pratique, c'est que ça rappelle le moment de l'esclavage. C'est-à-dire qu'on venait choisir les meilleurs. Et une fois qu'on les avait choisis, on partait avec et il ne restait plus rien. Il faudrait qu'aujourd'hui les pays africains arrivent à être maîtres du processus d'immigration, à être maîtres de leur population quand leur population bouge d'un État vers un autre. Qu'il y a un recensement qui permet de savoir qui est où, qui fait quoi et savoir comment est-ce qu'on pourrait associer toutes ces personnes-là à la vie de l'État, au développement de son économie, à son développement tout court. Or, j'ai l'impression que jusqu'à présent, les pays africains sont très peu nombreux à avoir créé des ministères de l'immigration, à avoir créé un service au sein du ministère des Affaires étrangères qui s'occupe de leurs ressortissants à l'extérieur. Donc pour moi, il faut non seulement qu'au niveau national, cet effort-là soit fait pour gérer la population immigrée des pays africains qui se trouvent à l'extérieur, mais qu'en retour également, il y ait une politique qui permette de tirer le meilleur de cette immigration-là pour les pays d'où partent les migrants en question. Donc pour moi, la question n'est pas de savoir si on perd ou si on gagne en laissant partir les gens. La mobilité est quelque chose d'acquis pour tout le monde maintenant. L'idée, c'est de savoir comment on fait pour que tout cela profite à tout le monde en même temps. On ne va pas empêcher les gens d'aller travailler aux États-Unis ou en France, mais ce n'est pas parce qu'ils sont en France ou aux États-Unis qu'ils arrêtent d'être Sénégalais, Camerounais ou Togolais.
D'accord. Oui, justement, malheureusement, on a peut-être 30 secondes, Léonard Wanchekon. Cette question de la double nationalité, ça peut être un obstacle dans certains pays. Est-ce que ces pays-là n'ont pas un peu une sorte de manque à gagner?
Non, je suis d'accord, Dani, il faut la double nationalité. Mais là, un point sur lequel je vais rapidement. En fait, il ne faut pas que l'immigration soit quelque chose de centralisé nécessairement au niveau du gouvernement. Il faut que les médecins eux-mêmes, les chercheurs eux-mêmes s'organisent pour voir comment ensemble ils peuvent contribuer, ils peuvent aider ceux qui sont sur place. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tout passe par le gouvernement. Il faut que des initiatives soient créées par les chercheurs eux-mêmes, par les cadres eux-mêmes, pour créer un genre de consortium.
Oui, malheureusement, c'est un débat sur lequel nous allons très certainement revenir. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à mes invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Je n'oublie pas, bien sûr, toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.